RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, à une journée de la fin de la saison régulière. On connaît enfin l'identité de la moitié des 6 clubs qualifiés pour les phases finales. Montpellier, l'UBB et Castres ont donc décroché la timbale ce week-end, mais ces 3 clubs ne savent pas encore s'ils iront directement en demi ou s'ils devront disputer ces quarts de finale qui n'en portent pas le nom, mais qui en ont toute la saveur. Alors qui sera exempté des quarts? Qui participera à ces matchs à la vie à la mort? Et quels seront les cocus de l'histoire qui termineront leur saison dans 2 semaines? Enfin, quelle équipe aura le privilège redoutable d'affronter le vice-champion de France de Pro D2 en match de barrage pour espérer poursuivre l'aventure dans l'élite ou repasser à l'étage inférieur? Beaucoup de questions qui appellent les réponses des poteaux avec lesquels nous allons donc étudier attentivement les positions des uns et des autres. Si vous êtes fort en maths, c'est le moment de le montrer. Voilà, en tout cas, on va poser la question à tous les dieux des poteaux, à commencer par notre ami Apollon Charvet, dieu du soleil et des arts. Quand on a commis Vercingétorix, on ne peut être que le dieu des arts, évidemment.
Bien sûr. Mais Dionysos, c'est un dieu.
Dionysos,
c'est le dieu du quoi?
Pinard,
du vin.
Du pinard.
Mais ça, c'est plutôt Pierre Amiche, hein, a priori.
Ah, mais c'est moi. Aussi.
Léo Zeus, ah, ça lui va pas mal. Léo Zeus, c'est également de la partie, le dieu absolu, épris de puissance. C'est vrai que quand on fait partie de Middle, on a la puissance autour de soi. Ça va, Léo?
Et ça, c'est l'accueil quand même. Salut l'équipe.
C'est autre chose de Léo que Manu.
Il a un corps de héros pourtant.
Mais là, je gonfle un peu. Je suis dans son fauteuil. Là, je peux vous dire que je prends du grade là.
Et puis notre dernier dieu, Wilfried Hermès, du nom de ce dieu qui maniait l'éloquence avec brillant.
Le dernier.
Quand on entend ses commentaires, c'est vrai que voilà, hein, ça lui va bien, Hermès, non? C'est pas le sac, ouais, hein, pas le sac.
Oui, le sac, ouais. Pas le sac des footballeurs.
Messieurs les poteaux, c'est parti. On connaît donc enfin les noms des 3 premiers qualifiés pour les playoffs à l'issue d'une 25e journée très disputée.
Et on a un nouveau qualifié pour les phases finales, l'Union Bordeaux-Bègles qui a éclaté le loup en deuxième mi-temps, hein, 36-7.
Et des Lyonnais qui ont lâché, des Lyonnais qui ont baissé physiquement, alors c'est pas un bon signe avant la finale de Coupe d'Europe et avant leur match qualificatif dans 15 jours.
La victoire des Montpelliérains, 22-13, les Montpelliérains retrouvent leur place de leader ce soir au top 14, sont donc qualifiés pour les phases finales, restera maintenant à savoir à quelle place la première, la deuxième ou des barrages.
C'est terminé ici la victoire bonifiée du Castres Olympique face à Perpignan. Le Castres Olympique qui fait la très bonne opération et qui a rejoint Bordeaux-Bègles à la deuxième place. Mais voilà, il y aura une dernière journée de feu dans ce top 14 pour les 6 qualifiés.
L'UBB, Castres et Montpellier ont donc leur billet. Mis à part Bordeaux, ce n'étaient pas forcément ceux que l'on citait en priorité depuis en début de saison pour obtenir le précieux ticket. Denis, quelle est l'équipe qui t'a le plus séduit cette saison dans le trio pour l'instant qualifié pour les phases finales?
Bordeaux, même s'ils ont eu une baisse de régime. Alors Montpellier va faire la gueule, Philippe Saint-André, mais
il a l'habitude que tu le crépisses de toute façon, hein. ça a été ça pendant 10 ans.
J'ai l'impression que Bordeaux a une autre dimension, voilà, physique, avec Jalibert à l'ouverture qui revient au plus haut niveau. Il est assez impressionnant quand il a ce niveau-là. Je sais pas, le ressenti, c'est plutôt Bordeaux-Bègles, même si Montpellier, il faut mettre en avant quand même la saison de Montpellier qui a été extraordinaire.
Donc Bordeaux, l'UBB pour toi, Denis, Wilfried, l'équipe qui t'a le plus séduit, toi aussi, Bordeaux.
Ouais, même si franchement, les gars, il n'y en a aucune des 3 et même des autres derrière qui a dominé son rugby du début à la fin. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, peut-être les années d'avant, l'année dernière, La Rochelle, Toulouse et La Rochelle, qui étaient dans les 2 premiers, qui avaient de l'avance, qui pouvaient gérer la Coupe d'Europe, là. Chacun a eu un trou d'air, aucun n'a impressionné du début à la fin, mais tu as raison Denis, même si Castres, attention, Castres a toujours été bien classé et assez régulier, sauf que Bordeaux a perdu 9 matchs sur 11 là, ils ont ressorti la tête de l'eau, mais dernièrement ils ne maîtrisaient pas, donc oui, pour le panache dans leur jeu par rapport aux 2 autres équipes, on va dire peut-être Bordeaux sur le jeu.
Léo?
Comme Wilfried, c'est vrai que c'est une saison assez bizarre où il n'y a pas une
équipe. Il n'y a pas une équipe qui a dominé.
Ouais, et puis il n'y en a pas une qui a impressionné, franchement. Ouais. C'est avec des périodes, 6-7 matchs, mais pas sur longueur. Moi, je trouve que Castres a une vraie belle tête d'équipe de phase finale.
De phase finale ou de vainqueur?
Oui, parce que là, c'est différent
du top 14.
Ouais, mais bon, je veux dire, si ça déroulent correctement, ils peuvent être en demi déjà. Donc
mais moi, alors, si on parle comptablement, je vois pas comment Bakar sera.
Alors
pas
on va faire les comptes. Oui, on va faire les comptes. Là, parce que là, si tu commences à rentrer dans les comptes, là, tu sais que Wilfried a quand même bossé pendant 4 heures pour
travailler. Ouais.
Alors, on va commencer par le MHR, à tout seigneur, à tout honneur, évidemment.
Qui est premier,
puisqu'ils terminent. Enfin, ils sont pas sûrs de terminer la saison à la première place, mais pour l'instant, ils comptent 73 points avec en tête, donc avec un petit point d'avance sur la meute. Leur destin entre les mains, s'ils veulent aller directement en demi, c'est ce qu'en bon joueur de flipper qu'il est, Philippe Saint-André appelle une extra balle.
Déjà, l'objectif, c'est Clermont-Ferrand. Vous savez que si on gagne, on finira ou premier ou second. Donc ça voudra dire directement Nice. Si on perd, ça sera un quart de finale à domicile. Donc on a une extra balle. À nous de la jouer le mieux possible, de bien la préparer, de retrouver encore un peu plus de grinta, de précision dans les zones de marque. On avait enchaîné 4 défaites d'affilée. Donc c'était très très bien de relancer la machine aujourd'hui par une victoire et d'enlever aussi le bonus défensif au Racing.
Montpellier, ils gagneront pas Clermont.
Ils gagneront pas Clermont.
Ils seront pas.
Non, mais moi, j'irai pas dans les deux. Mais bon, après.
Messieurs, c'est pas vrai ce qu'il dit. S'ils gagnent, on sera premier ou deuxième. Non, ça dépend des bonus. Parce qu'en cas d'égalité à 3, ils se font passer devant par Castres. D'égalité à 2 avec Castres, ils se font passer devant par Castres.
Et par Bordeaux.
Pour terminer premier, il faut qu'ils aillent gagner à Michelin avec le bonus.
Voilà, ils se font passer devant.
Ouais. Donc ça veut dire ça dépend des autres équipes.
Bah, ça dépend. Bordeaux peut perdre à Perpignan, Castres peut perdre à Pau, il faudra plus que gagner. Il dit on sera devant premier. Pas tout à fait.
J'ai une énigme, moi. C'est parce que clairement, s'ils gagnent avec points de bonus offensif contre Montpellier, ils sont à 67 points.
Ouais,
on me dit que la montagne a déclaré, le journal de la région a dit c'est fini, c'est impossible. Donc je ne sais pas pourquoi il y a ce raisonnement-là. Est-ce que tu le sais, Léo ?
C'est pas impossible. Non,
mais ce qu'a dit la montagne, la montagne déclare ça et dit c'est fini.
Non, mathématiquement, ils ne sont pas éliminés. Pas non.
Mais alors c'est, c'est les points de terrain, en fait.
Oui, dans confrontation entre les deux équipes.
Voilà.
C'est-à-dire qu'une équipe qui a marqué 5 points contre l'autre au classement à l'aller et a perdu de 4, et ben ils sont devant. Perdu avec, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est mort pour eux. C'est possible.
Donc ils le sauront avant le coup d'envoi, de toute façon.
Oui, avant le coup d'envoi, ils le sauront.
Et ça peut changer les choses, évidemment.
Ça peut changer les choses, oui, bien sûr.
Dernière journée de la saison à Michelin, si t'as encore une toute petite possibilité. Oui, là, ça va être compliqué.
Mais moi, je vois pas les Clermontois lâcher un match à domicile.
Même sans lâcher, est-ce que tu penses que les Clermontois sont au niveau pour les phases finales de ce championnat?
Ah non, au niveau peut-être pas.
Il faut d'autres défaites en plus devant eux. Il faut un concours de circonstances.
Non, il faut. Je suis un peu d'accord. C'est fini, il faudra un miracle maintenant pour Clermont.
Mais il faut même que Toulouse perde contre Biarritz alors à domicile,
entre autres.
S'ils veulent passer devant.
Ok, donc vous voyez le MHR évidemment atteindre, ça c'est fait déjà,
oui, c'est fait.
Leur place pour le top 6, mais peut-être pas.
Plutôt barragiste à la maison,
peut-être
pour moi.
Pas pour une demi-finale directement.
Moi je les vois gagner à Clermont, mais bon.
Je vois pas Bordeaux ne pas gagner à Perpignan, sachant que Perpignan, ACBS, le capitaine, a déclaré on se concentre pour les barrages.
Non, je t'ai entendu, Moscato Show, ils vont pas faire l'impasse. C'est pas ce qu'il dit. Il dit on est en access match. On va pas compter sur Brive, que Brive perde au Stade Français et tout. On va se dire qu'on est en access match. Et si on a le bonheur de battre l'UBB et que Brive chute, bah là, on aura quelque chose de positif.
Enfin, c'est un mauvais calcul pour moi.
Il dit, il faut en tout cas qu'on gagne pour se créer une dynamique parce qu'on a l'access match derrière et le stade d'Émile Giral va être en fusion. Hein. S'il y a un bout de chance pour Perpignan, ils vont le jouer à fond quand même.
Ouais, je crois qu'il ressort après la défaite à Castres, il était un peu remonté. Il a dit clairement, on sera prêt à Aimé Giral la semaine prochaine. Donc, il n'est pas sûr qu'il le lâche les Perpignanais. Hein.
D'accord. Donc, vous voyez l'ASM s'imposer face à Montpellier. Et a priori, l'USAP aussi s'imposer contre l'UBB. C'est ça pour vous, Denis?
Ah non, moi, je vois l'UBB gagner à l'USAP.
Tu vois l'UBB gagner à
l'USAP. L'USAP, ils ont récupéré tout le monde. Ils ont l'effectif au complet. Ils arrivent dans cette phase finale plein badin, comme on dit. Et ça va être compliqué pour l'USAP de s'imposer, sachant que l'UBB, ça leur fait éviter un match de barrage.
Effectivement.
C'est-à-dire que c'est un enjeu énorme. C'est-à-dire que s'ils gagnent à Perpignan, ils vont se reposer une semaine, ils pourront attaquer les demi-finales. Alors, parfois, on se dit qu'il vaut mieux jouer un match entre les deux. Mais moi, dans la gestion.
Ouais, un match où
toutes les deux semaines en
oui,
ce moment.
Sauf,
c'est pas plus
sauf
mal, hein.
Que tu es quand même viré directement en demi-finale.
Ouais. Ah oui, bien sûr. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Léo le Clermontois, mais je vois plutôt Montpellier s'imposer à Clermont avec une certaine logique sur la saison où Clermont a toujours cherché son rugby. Alors, c'est la fin de certains là-bas et tout. Mais Montpellier, quand même, plus, même s'ils ont eu un petit coup de mou, et ils ont des absents comme Villemc, comme Reynac, Montpellier, quand même, plus logique dans son jeu. Il y a une certaine logique, peut-être. Pour
je
ne
peux pas dire que Montpellier m'impressionne énormément, il me transcende, mais Clermont est vraiment faible, franchement. Des 9 qui prétendaient à la qualif, c'était très clairement les 9e. Donc non, je les vois un peu en difficulté encore, effectivement, à domicile face à Montpellier.
Bon, non. Très bien. Alors là, vous êtes en train de me mettre une pagaille terrible dans mon fil conducteur de mon émission. On était en train de parler de Bordeaux et de notamment un certain Mathieu Jalibert qui, là aussi, est peut-être le joker qui va permettre, Léo, à cette équipe de l'UBB d'aller loin, hein, parce qu'on a vu que son retour... Bon, la dernière fois, il avait joué, mais on sentait qu'il n'était pas encore revenu à son top niveau. Ce week-end, il a été tout simplement énorme, Jalibert.
Ouais, mais alors c'est à la fois super et rassurant pour eux, et ça donne quand même une petite idée de la fragilité, c'est qu'ils sont très dépendants de Jalibert quand même. Quand il est pas là, c'est plus la même équipe. Et voilà.
Ouais, mais là il est là justement pour les phases finales.
Il est là.
A priori.
Dis-moi, à Toulouse, il était pas dépendant de Dupont, de Tamac.
Ah, moins quand même, je trouve.
Les grands joueurs, les grandes équipes ont des grands joueurs. Il faut arrêter avec ça.
Mais non,
mais c'est pas vrai.
Un.
Mais si. Mais les grandes équipes ont des grands buteurs. On va pas revenir sur le cas du buteur parce que ça m'a énervé. Mais après ils ont des grands. Ils ont des grands joueurs au poste clé. Je suis désolé, Jalibert, c'est une pépite.
C'est un grand joueur.
Oui, mais un poste clé. Et si avec le Bordeaux l'a prolongé, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc, tu peux pas dire il change l'équipe. Oui, il change l'équipe. Mais
je trouve que Toulouse, par exemple, est moins dépendant d'un seul joueur que Bordeaux.
Ah, tu retires Dupont, c'est pas la même équipe.
Ah, évidemment.
Hein. Mais tu vois les stats. Regarde les stats quand Dupont joue ou joue pas. C'est simple. Alors après, je sais qu'Hugo Mola, il aime pas trop ça parce qu'il dit j'aime pas la dépendance de Dupont, mais t'es obligé de l'avoir, la dépendance de Dupont.
Ouais. Et est-ce que, vous pensez que la dépendance à Jalibert est plus importante pour l'UBB que la dépendance de Dupont?
Non,
c'est pareil.
Je suis plutôt du côté de Léo. Je veux pas te contredire, Denis,
mais tu vas le faire.
Mais tu vas le faire. Non, mais par rapport au rythme qu'il impulse en 10 à côté de Trinduc, quoi, à la place. C'est vrai que Dupont, tu l'enlèves, c'est pas du tout la même chose. Mais Jalibert, quand il est là,
l'attaque,
bah justement, ils sont très dépendants de lui. C'était pas la question ?
Oui, mais c'est d'accord, mais c'est un débat sans fin. Je veux dire, les grandes équipes, je le répète, ont des grands joueurs en poste clé. Jalibert fait partie de cette équipe. Il n'a pas joué parce qu'il était blessé. Mais c'est pas un problème de dépendance, c'est un problème de construction d'équipe et il fait partie de cette équipe.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il diffuse de la confiance et on l'a vu ce week-end quand il retrouve son niveau de jeu. On voit que tout le monde d'un seul coup est meilleur autour. Ça, c'est une évidence. Oui, donc avec Jalibert, ce Bordeaux-là est dangereux pour les phases finales.
Non, mais on l'a souvent dit, mais c'est un phénomène, Jalibert. Franchement, c'est un garçon, tu l'as vu sur... Alors, il le dit après le match, j'ai faim de rugby, mais c'est vrai que c'est un joueur incroyable pour moi.
Et si on les associe en équipe de France, Ntamak et Jalibert
on pourrait essayer.
Et si on faisait si Paris. On relançait des bons débats de l'hiver, tiens.
Mais alors, on les ferait 10-12 ou 10-15
moi, je vous répète qu'il serait, le poste à l'arrière, serait son poste de...
Oui, ça...
Le 10-15.
Ouais. Donc un 17.
Personne m'écoute, mais bon.
Et en 12, tu mettrais qui alors ?
Non, en 12, il y a du monde.
D'accord. Ok, alors, on a bien compris que l'UBB était dépendant de Jalibert, le stade toulousain de Dupont, et Castres, ils sont dépendants de qui alors ?
Bah, Castres, c'est une ronce, Castres. Castres, ce qui est incroyable, c'est que les entraîneurs passent, les joueurs, les générations passent, et t'as le même état d'esprit.
C'est qui la star du CO ?
Ben, c'est la région, je crois que c'est cette cité imprenable, quoi, quelque part, quoi.
C'est un club sans star. Mais ils en sont très heureux, d'ailleurs, ils le revendiquent, ça.
C'est le club du terroir, tout simplement. Il y en a un en France qui reste, c'est presque l'Astérix et Obélix, quoi. Voilà,
sous-préfecture, comme dit le président Pierre-Yves Revol.
Alors, ils se nourrissent.
Petite sous-préfecture.
Exactement, mais ils se nourrissent de ça aussi, Wilfried. Donc, tu le connais bien. Donc, ils sont quand même toujours dans ce conflit-là, en disant nous, on est le petit face au gros.
Oui, c'est ce qui les fait avancer, c'est leur essence.
Voilà, donc. Mais chapeau à eux.
Quelles ont été les grandes stars du Castres Olympique tout au long de l'histoire ?
Il y en a eu.
Cap Ortega pour moi.
Mazoué, Chris Mazoué.
Ouais.
Gary Whitton.
Thompson, qui a fait qui est l'ouvreur de Écossais. Après, il y a les Toulousains qui sont venus.
Rory Cocotte.
Il y a Lamrat qui est Lamrat, Castagnède, Rory, je sais plus, Ibanez. Ibanez aussi qui est venu de.
Ouais, mais ils n'ont pas laissé une empreinte comme Rory Cocotte qui vient de faire 10 ans avec deux boucliers. Qui a été meilleur joueur de.
Oui, mais dès qu'il y a eu des stars, finalement, ça marchait moins.
Ça a moins marché.
Donc, c'est vrai que c'est.
Ils ont aussi formé les jeunes stars Dupont, Jelonche.
Après, l'exemple, pour moi, l'exemple à Castres qui est le plus, comment dire, significatif de cette équipe, c'est qui représente pour moi le symbole, c'est Dumora. Dumora, ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Je crois que ça fait 10 ans. Moi, je l'ai eu plusieurs fois en Barbarian.
Un peu moins.
C'est un mec qui ne paie pas de mine. Il est d'une efficacité, d'une constance au niveau de ses performances qui est hallucinant. Et je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant.
Et d'ailleurs, je vais
le reprendre en Barbarian cette année.
Allez, bam! Sur le troisième essai castré, il met un petit coup de pied par au-dessus. Il sert contre le 2-1. Il est replacé sur le renversement pour jouer le 2-1 avec Nkosi. Il est propre. C'est propre tout ce qu'il fait.
Il est propre et efficace et il tire vers son équipe vers le haut tout le temps. Voilà, c'est...
Bon, mais finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que Castres va devenir champion de France. Hein.
Mais non, mais ce que tu as donné au début, c'est une ronce, mais c'est une vraie vertu en phase finale, ça. Avec deux, trois joueurs qui sont des vrais match winners, ils l'ont montré en 2018 quand ils sont champions. Ils vont être embêtants pour être polis à bouger les castrés.
Léo, est-ce que c'était un match de reprise? Ils n'avaient pas joué depuis 3 semaines. C'est souvent comme ça. Quand ils sont favoris, ils sont moins bons. Là, face à Perpignan, ils ont perdu des collisions. Il y a eu beaucoup de fautes de main. Sur la conquête, ils se sont fait un peu bousculer en touche. Il va falloir, ils le savent, qu'ils montent de 2 crans.
Alors eux, ils ont un grand buteur.
Ils seront prêts le jour.
Un grand buteur quand même.
Et oui.
Ce qui est rassurant.
Benjamin.
Donc Urdapi Leta qui doit être des stats assez impressionnants.
Tu veux dire qu'il est meilleur que Yaya West ou que
Non, mais il n'y a pas de meilleur. Après,
Laisse ce dossier de côté. Il va croiser des Rochelais à Marseille, fais gaffe.
Il n'y a pas de meilleur, il faut enquiller, c'est tout. Quand tu es buteur, il faut enquiller. Voilà,
c'est dans les moments où ça compte.
Bon, alors,
Usep, Yaya West.
Le public est peut-être d'accord avec moi aussi, Rochelais.
Bon, Castres, qu'est-ce que vous les voyez
faire? Castres, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Je vois qu'ils vont
aller. Barrage à domicile.
Ils vont aller en demi-finale. Non, je pense que là, ils sont partis pour se qualifier directement. Hein. Et après, après, ils vont tomber contre Toulouse.
Alors, Castres qui se déplacera à Pau dans 15 jours. Ça veut dire quoi?
Non, Pau a rien joué. Il y a trop d'enjeux, si tu veux.
Castres,
oui. Victoire Castres.
Donc, s'il y a une victoire Castres et que le MHR ou l'UBB se plante, ça peut être une demi direct.
Moi, il y a une grande chance qu'ils aillent en demi direct. Pour moi, Castres. Sur la dynamique, sur le fait que Pau n'ait rien à jouer à domicile.
Donc pour toi, les deux demi-finalistes directs seraient Denis
Castres, je l'ai dit, et Bègles-Bordeaux.
Castres et Bègles-Bordeaux. Léo?
Castres et Montpellier.
Et Wilfried?
UBB, Montpellier, je l'ai dit, on a fait des paris il y a 6 semaines. Là, j'avais mis UBB, Montpellier.
Très bien.
Et j'ai rajouté Dumora à ma liste pour le match contre les États-Unis et les Barbarians français à Houston.
Voilà. Moi aussi, je donne Montpellier et UBB qualifiés directement pour les demi-finales.
Enfin, tu nous emmènes aussi avec les babas.
Pour l'instant, je fais mon équipe. C'est un peu
il est tellement radin qu'il risque de nous inviter là-dessus. Alors, on a les 3 premiers qualifiés. Il reste donc 3 billets à distribuer et 5 voire 6 postulants, si on inclut Clermont. On l'a bien compris. Le match le plus passionnant de la dernière journée va donc opposer deux grands noms du championnat, le Racing et Toulon. Les Franciliens ont 2 points d'avance sur les Provençaux. Ils jouent à domicile. A priori, comme ça, sur le papier, ça semble dans les cordes.
T'as oublié le Lyon-La Rochelle.
Je vais en parler après. Oui. Mais pour moi, le plus excitant, c'est quand même
par rapport à la fin de saison de Toulon. On est d'accord.
Ah
oui.
Non mais attends, c'est le Racing, demi-finaliste de la Coupe d'Europe, battu la semaine dernière. Ouais. C'est Toulon, 3 fois champion d'Europe. C'est 2 monstres du rugby français.
Mais La Rochelle, c'est le finaliste de la Coupe d'Europe. Ils peuvent ne pas se qualifier.
Il faut qu'ils gagnent des titres avant de devenir un très grand du rugby français.
Non, mais tu as raison, Racing. Racing,
et on fait match par match, Denis. Tu écoutes le chef.
Non, mais le fil conducteur, s'il vous plaît, messieurs.
C'est mon ami Pierre Amiche qui est Rochelet. Je comprends sa déception.
Oui, mais on en parlera après de La Rochelle. On va en parler toute la semaine prochaine de La Rochelle. Alors, on en parle depuis le début de l'année de La Rochelle. Parlons de Toulon. Voilà un club qui finit en plein canon. C'est quand même incroyable.
D'abord, je parle du Racing. Je parlerai du Racing. Pourquoi? Parce que le Racing, je les trouve en danger. En grand danger, dans la mesure où.
Tête, le Racing.
À Montpellier, ils ont fait un match catastrophique avec une manque de gestion, un manque d'envie, un manque de détermination, alors que ce match était un gros enjeu pour eux. Ils vont se mettre une pression maximale en recevant Toulon, qui n'aura rien à gagner, si ce n'est que d'aller gagner le Brennus au bout, et peut-être un Toulon qui sera déjà champion d'Europe. Donc le Racing s'est mis une pression inutile à Montpellier, où ils ont fait un match, ils sont passés complètement à côté. Mais bon, après, ils vont recevoir chez eux. J'espère qu'ils vont s'en sortir, mais j'ai du mal à croire que le Racing va s'en sortir.
Donc, tu penses, tu vois une victoire toulonnaise
mais en Toulon, terre, parce que Toulon a récupéré tous ses blessés, que Toulon est sur une dynamique de victoire, qu'ils ont, tous les voyants sont au vert, et que sur cette surface qui, normalement, devrait avantager le Racing, mais Toulon, ils ont des gamins vieillards, ils ont des joueurs comme Luc qui vont à 2000, ils ont des joueurs qui vont à 2000, pareil que le Racing.
Peut-être que Colby sera revenu.
Peut-être que Colby sera là, donc voilà. C'est chaud quand même pour cette réception de Toulon à l'Arena.
Alors, on a compris, Denis voit une victoire toulonnaise à l'Arena dans
je
15 jours.
Pas, je
juste que vous êtes du même avis que Denis, messieurs. Léo.
Oui, je vais être du même avec Denis. C'est vrai qu'il y a une euphorie côté Toulonnais actuellement. Tout tourne pour eux. Et je le rejoins. Je trouve que le Racing est assez inquiétant quand même. Autant dans le contenu que dans l'absence de réaction. Ils sont armés quand même. Pourtant, je veux dire, dans l'effectif, il y a tout pour produire mieux que ça. Et il donne une impression d'être un peu amorphe.
Ce que je ne comprends pas, Léo, c'est l'enjeu qu'il y avait dans ce match-là. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une prise de conscience pour dire on va essayer d'inquiéter Montpellier. Non, au contraire, ils ont subi tous les impacts.
La demi-alence de Coupe d'Europe, dans la production, c'est pauvre. Quoi. C'est très pauvre comme match.
Le Racing a quelque chose de cassé. Il y a un ressort de cassé psychologiquement. La défaite contre en demi, tu dis Léo, a fait très mal, je pense, parce que La Rochelle n'a pas été bon. Mais le Racing a été encore moins bon. Et le Garek, à l'occasion de passer les pénalités et de faire passer le match, peut-être de se qualifier. Et là, ça les tue. Et à Montpellier, on atteint une réaction. Il n'y en a pas. C'est ça le signe le plus inquiétant. Peut-être que
dans pas de révolte.
Mais je pense que dans la tête, il y a un mal de tête, un mal de crâne au niveau du Racing. Et si les Toulonnais arrivent lancés comme ça, comme des frelons, là, avec leur nombre de victoires depuis des semaines, c'est très dangereux pour eux. Parce que ils ne donnent pas de réponse, le Racing, en ce moment.
Ouais, et puis Denis, tu le sais, certes, il y a l'usure physique, tout ce qu'on veut, mais quand il y a de l'euphorie, tout récupère plus vite, les Toulonnais, bien en ce moment. Quoi.
Et puis, attention, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte. On dit, oui, ils ont une finale. Mais le final, ça leur permet d'avoir du rythme, de continuer la saison sur le même rythme.
Ah, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il faut avoir du rythme et
la donnée qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils jouent le vendredi soir, donc Toulon, et qu'ils vont jouer le dimanche d'après. Ça veut dire qu'ils ont 10 jours. C'est pas 7 jours, c'est pas 8 jours, c'est 10 jours, c'est beaucoup.
Et puis l'infirmerie est vide.
Et puis Azema a tenté un pari qu'il a réussi contre Pau en protégeant beaucoup de son effectif en temps de tournée. Et du coup.
Là, il va pas pouvoir le faire dans les deux.
Non, mais en finale, bien sûr que non. Mais au moins, il a fait du frais. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est inquiétant pour le Racing. C'est qu'ils vont avoir 10 jours de récupération et arriver frais pour jouer un 8e de finale à l'Arena.
Donc Toulon vainqueur pour Denis, pour Léo et toi Wilfried.
Oui, je pense aussi. Bon, après, les matchs, il faut les jouer, comme on dit, mais je pense que Toulon est favori sur ce match par rapport à ce qu'a montré le Racing dernièrement.
Et on pourrait avoir un Montpellier-Toulon. Alors, on est en train d'extrapoler.
Un Montpellier-Toulon. Ah oui, donc
tu peux avoir un Montpellier-Toulon en barrage.
Si on spécule sur la spéculation.
Qu'est-ce que tu nous avais dit déjà tout à l'heure pour les demi-finalistes?
Non, je t'ai dit Bordeaux et Castres.
D'accord, ok.
Je t'ai dit Montpellier peut finir troisième et recevoir Toulon qui sortira ici.
Ouais, moi, j'avais plutôt prévu un Castres-Toulon.
C'est possible.
En barrage.
C'est possible.
On verra. En tout cas, c'est vrai que la situation est compliquée pour le Racing parce que si tu perds en demi-finale et si derrière tu ne te qualifies pas pour les playoffs, ça peut quand même sauter dans les
branches.
C'est
un énorme échec pour Jackie, Lorenzetti, mais pour tout le monde. Puis il va y avoir aussi un changement de génération. Il y a Bobigny qui s'en va. Il y a plusieurs joueurs qui s'en vont. Machenot s'en va.
C'est dans la lignée de l'année dernière, de leur déception en demi-finale au top 14. Les ressorts. Souvenez-vous, on en parlait à Noël au Racing. Ils avaient réagi derrière, mais on les voyait déjà pas bien. C'est pas facile pour eux.
Donc vous voyez, le Racing avec une belle tête de cocu, comme on disait tout à l'heure dans notre
émission. Ils vont peut-être nous faire mentir.
Ils avaient enterré, ça y est, le cercueil est fermé.
C'est le ressenti qu'on a quand on voit Toulon sur la dynamique sur laquelle ils sont. C'est incroyable. Ils ont gagné combien de matchs à la suite?
Ils sont à 6. Pour l'instant, il y avait une défaite, mais qui comptait pour du beurre.
Je crois que c'est 12. Je crois que c'est
sur les 14 derniers matchs ou 12 sur 15.
12 sur 14, 12 sur 14, je crois.
C'est impressionnant.
12 sur 14.
Énorme RC Toulon qui va, avant de disputer ce dernier match face au Racing, disputer une finale européenne la semaine prochaine. Alors, justement, une rencontre capitale va avoir également s'opposer deux finalistes européens dans 15 jours. ce sera donc le Loup qui sera opposé vendredi soir en finale du Challenge à Toulon et La Rochelle qui attendra le lendemain la finale de Champions Cup. Deux clubs qui apparaissent comme outsiders dans leurs finales respectives, hein, ils ne sont pas favoris. Victoire ou défaite en finale qui auront sans doute des conséquences avant ces derniers rendez-vous en top 14. Tu le disais tout à l'heure, évidemment, sur la dynamique d'un succès, tu peux encore rouler sur les autres. Mais on l'a vu avec le Racing, c'est difficile de se remettre d'une défaite en demi-finale. Comment les deux clubs pour envisager ça? Je ne veux pas enterrer pour autant La Rochelle et le Loup, mais voilà.
Moi, je ne vois pas La Rochelle perdre au Loup, déjà.
D'accord.
Ou en tout cas, ne pas prendre un point de bonus défensif.
Parce qu'il faut 5 points au Loup pour se qualifier. Hein.
Oui, voilà, il faudrait que le Loup
avec bonus ouais, passe à La Rochelle.
Oui, mais je vois pas le Loup mettre 3 points, 3 essais d'écart avec La Rochelle. Ça me semble improbable. Bon, après, voilà, donc ça va être compliqué. Compliqué pour le Loup, et même s'ils ont un jour de récupération de plus, mais je l'ai dit, si La Rochelle va jouer le samedi, il va rejouer le dimanche d'après. Donc.
Ouais, enfin, La Rochelle, s'ils perdent une deuxième finale de suite en Coupe d'Europe, là, je parlais de Bobo Tête-Tête pour le Racing, là, ça sera pareil. Hein. Et même s'ils ne sont pas favoris, si tout le monde voit le Leinster, de perdre deux finales de Coupe d'Europe de suite, soit ils vont chercher une rage là-dedans, mais ça peut aussi
éteindre. Ça peut devenir les nouveaux jaunards, le spectre de la SM planerait-il sur La Rochelle.
Moi, je vois La Rochelle gagner contre le Leinster.
Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que Clermont a gagné une finale contre La Rochelle.
Ah oui, mais dis donc,
t'imagines ?
Ah oui, en plus.
Oui, challenge européen.
Ouais.
Très bien.
La Rochelle a fait 3 finales perdues sur ces dernières années. Ouais.
Donc pour vous, La Rochelle ne perdra pas.
Ils mettent un bonus offensif avec une équipe B entre guillemets contre le Stade Français. Alors Lyon n'est peut-être pas le Stade Français dans le niveau cette année, non, mais ils ont des ressources dans le groupe La Rochelle. Oui, mais il y a du monde. Quoi.
La Rochelle surtout, ils ont récupéré tout le monde. Donc c'est
et le grand moustachu est là en plus.
Skelton est revenu.
Oui,
vous l'avez dit.
Le coup de bluff. Le coup de bluff.
Mais il va jouer là-bas, il va jouer à Lyon, donc il apporte tellement à ce pack avec Antonio à droite et lui derrière, c'est quand même impressionnant. Ils ont une mêlée redoutable. Je vois pas la mêlée lyonnaise prendre le dessus. Non, je vois plutôt La Rochelle.
Toi, tu dis Lyon, Léon ?
Ouais, moi je joue Lyon. Tu joues Lyon à domicile.
Avec le bonus offensif, non ?
Ah non, quand même pas. Mais Lyon, ils avaient quand même fait tourner à Bordeaux pour cibler le dernier match parce qu'ils savaient qu'ils allaient enchaînement Coupe d'Europe et ça aussi. Ils ont
pas
aussi
sûr qu'ils ont
tourné à Bordeaux.
Parce que, excuse-moi, là ils sont quasiment condamnés à faire un exploit qui me semble impossible. Enfin, prendre un point de bonus à La Rochelle, offensif.
Et même une victoire.
Ça veut dire que La Rochelle pourrait s'en sortir comme ça, hein, en étant peut-être 6e. Ouais. C'est-à-dire que Toulon prendrait la place du Racing dans les 6 si nos pronostics font comme ça. Et Lyon ne dépasserait pas La Rochelle. Donc La Rochelle sortirait en 6 à ce moment-là. Ouais, un poil de.
Hein. ça va te jouer
un poil de quoi
cette dernière journée.
Un poil de quoi,
poil de sourcil.
Alors, le dernier club prétendant à l'une des 6 places n'est pas n'importe quel club. C'est évidemment le champion de France en titre, Toulouse, qui semble quand même le plus tranquille avec la réception de Biarritz, Ernest Vallon. A priori, il n'y a pas photo. Toulouse devrait s'imposer avec bonus offensif, 5 points.
Toulouse, je ne sais pas ils finiront entre 4 et 5e place parce que ça va être ric-rac avec le Racing. Si le Racing gagne,
Toulouse, ils sont à 66
ils
points.
La 4e,
ça
hein.
se jouait entre La Rochelle, le Racing.
Moi, je les vois terminer 4e du top 14.
Mais ils peuvent finir.
Si La Rochelle perd, ils passent 4e, Toulouse.
Voilà. Ouais.
Ouais,
mais ils peuvent finir 5e, messieurs.
Ah bah car, oui,
ils peuvent recevoir Toulon.
Mais non, mais
aussi,
Racing
enfin,
à 66.
Racing à 66. Oui, mais si le Racing perd.
Oui, non, mais
si on dit que le Racing va perdre.
D'accord, mais admettons que le Racing gagne. Tu me diras, est-ce qu'ils vont gagner le point de bonus ou non ?
On vous dit qu'il y a plus personne qui comprend les mathématiques en France. Ouais. Voilà, nous avons une bonne tête de maths sup ici dans entre les poteaux.
Et puis donc, La Rochelle, si La Rochelle gagne à Lyon, ils sont 4. Hein.
Ils sont 4.
Ils sont 4.
Ouais.
Donc Toulouse peut finir 5 et Toulon 6.
Ok. Ouais. Bon. On n'a rien compris, on ne sait plus où on en est.
Mais il y aura des super barrages, hein, en tout cas. Hein.
Ouais.
Ah oui, ça va être excitant.
Magnifique barrage. On va se régaler, en tout cas. On va se régaler à l'occasion de cette dernière journée du top 14. Un dernier mot concernant donc la place de barragiste. On a parlé de Brive, de Perpignan. Il faudrait presque un miracle pour que les Catalans s'en sortent. Est-ce que vous les voyez accrocher cette place de deuxième?
Je répète, vu ce que m'a montré Bordeaux et vu l'effectif au complet... et vu l'enjeu de ce match pour les Bordeaux-Bègles, je vois pas comment ils vont perdre à Perpignan. Je ne le vois pas.
Ouais, Perpignan, c'est pas, c'est franchement, ils ont craqué à la fin à Cas. C'est cohérent
pièce.
Dans leur jeu, hein, Perpignan.
Mais une grosse pièce. Je vois pas comment.
Franchement,
Bordeaux,
par contre, moi je m'inquiète pour Brive parce que j'ai vu Brive samedi soir face à Toulouse. Brive, pas une occasion d'essai en première période, d'une faiblesse. Le CA Brive.
Mais c'est pas Brive qui est inquiétant. Je veux dire, c'est Bordeaux qui est inquiétant. Ils reçoivent Bordeaux, donc s'ils perdent contre Bordeaux, c'est fini.
Oui.
Très bien. Je vois pas comment
qu'est-ce
ça se
passe. Qu'est-ce qu'on dit là ? Faut dire quelque chose aussi là ?
Non, moi je dis que tu mets la pièce sur Perpi.
Tu mets la petite pièce sur Perpi.
La cote doit payer.
Et même aussi.
Ah, allez. Mais c'est pas mal ça. Oui. La petite pièce sur Perpignan.
Brive qui perd à Paris et Perpi qui tape Bordeaux.
Vous comprenez rien.
Bon,
attends,
vous avez
t'as déjà perdu des paris, toi.
Vous avez tout enregistré, que vous avez pris des notes.
Christophe Furios écoute ce podcast. Il va être content de toi,
Wilfred. On l'embrasse, Christophe.
Il va le prendre entre quatre yeux. Tu vas voir.
Il prend pas son équipe, je lui dirai.
Ouais, mais Bordeaux n'a pas toujours été si régulier ces dernières semaines.
Oui,
donc,
mais ils reviennent avec Jalibert.
Voilà, ils sont lancés, tu vas dire.
Bon, vous avez pris des notes, vous avez tout retenu ce qu'a dit Denis. Moi, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Donc, tu vois qui en demi-finale ?
Demi-finale, j'ai dit. Bordeaux et Castres.
Bordeaux et Castres.
Directement. Et après, tu veux quoi ? Tu veux
les quatre.
Montpellier, j'ai dit Montpellier-Toulon et Toulouse contre La Rochelle.
Et Toulouse contre La Rochelle.
Et qui reçoit La Rochelle
qui sort,
ou La Rochelle qui sort. Et le Racing sort.
Le Racing et Lyon hors des 6.
Ah bah oui, voilà. Les deux têtes de cocu, c'est Lyon et le Racing.
Moi, je ne gagne pas tout le temps en pronostic.
Non, ça se saurait si tu gagnais ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, c'est ça qui m'inquiète, c'est parce que là, j'ai les mêmes avis que toi, donc je pense que je vais perdre. Wilfried, qui seront les deux cocus de l'histoire ?
Ouais, c'est ce que je disais, pareil. Racing et Lyon, mais bon, vous savez, tout va jouer à un point de bonus par-ci, par-là. Donc, mais je pense que, voilà, c'est notre avis. Racing
et Lyon, jusqu'à la dernière seconde,
c'est
incroyable.
Léo,
on sera d'accord. Cocu, Racing et Lyon aussi, je pense.
Eh ben voilà, tout le monde est d'accord. Ils vont être contents du côté du Loup et du côté du Racing. Merci, les poteaux.
Il faut bien qu'il y en ait deux qui sortent, Christophe.
Oui, il faut bien choisir. Nous, on aimerait bien que tout le monde gagne, mais bon.
Il fallait être solide en match aujourd'hui.
On n'est pas chez Jacques Martin non plus. Très bien. C'est bon. Dans 15 jours. C'est une émission très radiophonique. Si vous aimez les mathématiques, franchement, je pense que vous pouvez sortir.
Et nous serons au demi-finale de la Coupe d'Europe. Toi, avec Wilfried, tous les trois.
Les finales même.
Les deux finales.
C'est des finales d'ailleurs.
En direct. Bah oui, mais à Marseille.
On y sera.
À Marseille, on y sera à partir de vendredi.
Et dire que dans une semaine, La Rochelle sera champion d'Europe.
Eh bien, on te le souhaite, évidemment. On te le souhaite parce que bon, on va pas non plus être pro Leinster.
Oui, vous allez les supporter un peu quand même.
Non, on va les supporter, bien sûr.
Ah bah oui,
bien sûr.
On va pousser derrière Yaya West.
Yaya West.
Elle passe entre les poteaux.
Très bien, rendez-vous vendredi soir donc pour la finale du Challenge, samedi pour la finale de la Champions Cup et donc dans deux semaines pour cette dernière journée du top 14. Merci les garçons, bonne semaine
salut.
Et au week-end prochain.